Dans quel cas est-ce que le manque de foi est une faute de notre part? Dans quel cas et à quelles conditions le manque de foi que nous pouvons ressentir est un péché? Et là, en l'occurrence, est-ce que l'absence de Thomas, ce qu'on appelle les doutes de Thomas, est-ce que c'était un péché? Est-ce qu'on imagine que les autres disciples avaient appliqué à Thomas ce que le Christ leur avait enseigné en matière de correction fraternelle? Si ton frère vient à commettre un péché, va le voir seul à seul pour le prévenir. S'il refuse de t'écouter, il y en a un qui était donc allé le voir en disant « Non, ça ne va pas ». S'il refuse de t'écouter, allez-y à plusieurs, deux ou trois, que ce soit sur la foi de deux ou trois témoins. Et s'il refuse encore de les écouter, convoque-le devant l'assemblée de l'Église. C'est peut-être ce qui s'est passé. C'est là que se situerait la venue de Jésus, avec cette phrase terrible, parce que c'est devant tout le monde, devant tous les autres. Cesse d'être incrédule. Si ce n'est pas la correction. Mais était-ce vraiment une faute de la part de Thomas? C'est ce que je voudrais qu'on examine ensemble, y compris parce que ça nous concerne de savoir dans quel cas c'est notre responsabilité qui est engagée quand nous manquons de foi. Et pour cela, je vous propose de repartir, de revenir à l'origine, de partir des péchés que la tradition appelle les péchés capitaux, c'est-à-dire pas les plus graves, les péchés qui sont à l'origine des autres, les péchés sources. Sept péchés capitaux dont vous savez que le principal, le plus répandu, universel, c'est l'orgueil. Ou prêtre confesseur, on est habitué, lorsque les personnes viennent nous voir, dire « Oh, il y a peut-être un peu d'orgueil. » On dit « Là, on ne se trompe jamais. » On ne se trompe jamais. C'est la première cause de manque de foi. Et, je le dis avec comme une certaine délicatesse, mais il faut bien le dire, c'est la caractéristique de tous les incroyants. Ça ne veut pas dire que tous les croyants soient des exemples et des modèles d'humilité. C'est bien, je sais bien déjà pour moi. Mais je vous mets au défi de trouver un humble impie, un humble incroyant. Sûrement une exception qui confirme la règle, mais de façon, faites le tour de tous nos proches, de tous nos amis incroyants, particulièrement aujourd'hui dans l'incroyance contemporaine. L'autosatisfaction de l'homme devant ses prouesses technologiques, devant ce qu'il est parvenu à réaliser, cette fierté en soi n'a d'égal que son aveuglement pour sa médiocrité morale, son comportement de tous les jours, et puis encore son aveuglement face à sa vocation divine. Jésus n'a pas choisi ses apôtres pour leur humilité. Il suffit de voir la réaction de Nathanaël quand Philippe vient le trouver en lui disant « Nous avons trouvé le Messie ». Quelle superbe, quelle condescendance, il entend ça. Ou même Pierre, au moment de la pêche, lorsque Jésus lui dit « Allez, on repart, jetez les filets ». Lui, le professionnel, qui n'avait rien pêché de la nuit. En revanche, après 3 années passées avec Jésus, l'humilité absolue, nous l'avons célébré au Jeudi Saint, dans le lavement des pieds. L'humilité absolue, évidemment, ça, on pourrait dire, ça a déteint sur eux. Ça les a imprégnés. C'est exactement ça, l'onction du Christ. Et Thomas, comme les autres, il s'est laissé corriger, purifier, même parfois humilier. Les 6 autres péchés capitaux, vous savez, se répartissent en 2 groupes. Il y a un premier groupe qui est composé de péchés qu'on pourrait qualifier de mollesse, d'amollissement, de sensualité au mauvais sens du terme, la paresse, la luxure, la gourmandise. C'est ça la nomenclature traditionnelle. Moi, je préfère dire impureté que luxure, parce que les initiales sont à ce moment-là mnémotechniques. Ça fait paresse, impureté, gourmandise, pig. C'est facile de s'en souvenir. La paresse, c'est la deuxième plus grande cause de manque de foi. L'orgueil premier, incontestable. Mais la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qui se reçoit, qui s'accueille humblement, mais qui nécessite de s'entretenir. Ça se travaille, ça se développe, ça doit grandir. Ça suppose quand même un certain nombre de connaissances, et pour ça, ça existe du catéchisme. Il y a des connaissances à acquérir. La lettre aux Hébreux le dit. La foi est un moyen de connaître. Connaître des réalités invisibles. Nous le verrons dimanche prochain. Mais retenons simplement pour l'heure que les apôtres avaient des défauts, mais ils n'étaient pas paresseux. Ils n'auraient pas pu suivre Jésus. Et quand on parle de paresse en matière de foi, c'est le plus souvent une paresse intellectuelle, pas seulement le fait de dire « Oh là là, c'est dur de se lever le dimanche matin !» Non, c'est une paresse intellectuelle qui fait qu'on laisse tomber, on abandonne, parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Les apôtres, les disciples, ils ne comprenaient pas tout. Loin de là. Mais ils s'accrochaient. Ils voulaient vraiment rester avec Jésus, le suivre. On l'a entendu au moment de la résurrection de Lazare, quand Jésus dit « Lazare est mort et je me réjouis de ne pas avoir été là pour que vous croyiez, pour que vous puissiez ainsi croire davantage. » Thomas, il est totalement à côté de la plaque, il dit « Allez, on y va pour mourir avec lui. » La deuxième série de péchés, source de péchés capitaux, c'est au contraire de la première qui constituait de péchés d'amollissement, sont des péchés de dureté. Même, on peut dire, de buter. C'est la colère, l'avarice, la jalousie. Ça aussi, c'est mnémotechnique, ça donne cage, parce que c'est un véritable enfermement. Ce sont vraiment des péchés de blocage. Et le plus répandu à égalité avec la paresse de ces péchés en matière de foi, c'est la colère. Et la colère contre Dieu. Pratiquement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je rencontre des personnes qui disent « Ah, je suis trop en colère contre Dieu ». Qu'on le tient responsable de tout ce qui nous arrive, de douloureux, de mauvais, toutes les souffrances qu'on peut vivre. Pas pour responsable de ce qui nous arrive de bien, mais dans ce mal. Faute d'avoir été catéchisé, correctement, faute d'avoir appris la différence essentielle entre cause première et cause seconde. La cause première, c'est-à-dire Dieu, qui est à l'origine de tout, donne aux causes secondes, c'est-à-dire aux créatures que nous sommes, la liberté et la responsabilité, l'être, le vouloir et l'action. Voilà ce que ne cesse de répéter saint Paul. C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est lui qui nous donne cela. Et c'est notre responsabilité qui est en cause. Les apôtres n'avaient pas de colère contre Jésus. Peut-être contre ses meurtriers, contre ce qui s'était passé. Mais ils s'en voulaient surtout à eux-mêmes. Ils s'en voulaient à eux-mêmes de l'avoir abandonné, de ne pas avoir été à la hauteur. Mais pour autant, le seul à s'être endurci, c'est Judas. Judas qui a retourné sa colère contre lui. Et ça, mes amis, c'est à retenir, il ne faut jamais le faire. On a le droit et on a bien des motifs parfois d'être en colère. Mais jamais retourner la colère contre soi. Et ces péchés, je n'en ai pris que trois, l'orgueil, la paresse, la colère, ont en commun d'être finalement, de nous figer, de nous laisser immobiles, de nous empêcher d'avancer, de progresser alors que c'est indispensable à la foi. La foi, elle se reçoit, elle s'accueille, elle s'entretient, elle se nourrit et puis elle se partage. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est pour cela que Thomas est allé retrouver ses frères, finalement. Parce qu'elle repose, la foi, elle repose sur quatre fondamentaux. On peut dire quatre piliers ou, comme on parle de transmission de la foi, quatre courroies de transmission. La première, c'est l'Église. Il est impossible de croire seul. Il est impossible de croire seul. Et même quand nous disons « je crois », à la première personne du singulier, c'est dans la communion de l'Église, c'est en lien avec les autres, c'est parce que nous avons dit « nous croyons ». Le deuxième pilier, ce sont les sacrements. Et Thomas était présent une semaine après, on peut dire le dimanche suivant à la messe, parce que la foi a une structure sacramentelle. Et le réveil de la foi, particulièrement aujourd'hui, pour notre époque et pour notre vie, passe par le réveil du sens sacramentel. du sens des sacrements de l'Église, pour comprendre comment le visible et le matériel, comment nous sommes des êtres incarnés qui sommes appelés à entrer dans la lumière divine. Et puis les deux autres piliers, ce sont les 10 commandements, le décalogue. Et il faut reconnaître quand même cela à Thomas, que Thomas, c'est un bon fils d'Israël, il ne ment pas. Lorsqu'il se fait reprendre par Jésus, il ne dit pas « non, c'est pas vrai » ou « j'ai pas dit ça comme ça ». Non, il ne ment pas. Et puis, la prière, évidemment. Ce sont les 4 piliers de la foi, la communion des croyants, la pratique des sacrements, le respect des commandements et la prière. C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture. La communion fraternelle et la fraction du pain, la prière et le partage des biens. Et voyez comment cette leçon qui nous est donnée par Thomas, à quel point il a pu finalement écouter ses frères. Et il était 8 jours après avec eux à prier. Ça, c'est une belle... Quel témoignage d'humilité. De courage, ils avaient tous peur. Humilité, courage, enthousiasme. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la générosité qu'on est en droit d'attendre des disciples du Christ. Mes amis, j'ai longtemps cru que le mois d'avril était le seul mois de l'année où il n'y avait pas de fête de la Vierge Marie. Vous pourrez essayer d'y penser, sur tous les autres mois, il y en a au moins 1, 2, 3, il y a des fêtes tout le temps de la Vierge Marie, sauf en avril. Et puis j'ai découvert assez récemment qu'en fait, si, il y en a une, dans 10 jours, le 26 avril, c'est la fête de Notre-Dame du Bon Conseil. C'est un beau titre, ça, Notre-Dame du Bon Conseil, ça date du 15e siècle. Et c'est la seule chose que nous pouvons dire à nos proches, tous ceux qui sont autour de nous, qui ne croient pas. Exactement leur dire la même chose que les apôtres à Thomas. Leur dire, si tu ne suis pas mon exemple, je te comprends, mais si tu ne suis pas mon exemple, suis au moins mes conseils. Et c'est ce que les apôtres ont dit à Thomas. Ils lui ont conseillé de rester, de revenir avec eux, de les croire sur parole. Quelle raison aurait-il eu de ne pas les croire ? Parce qu'il n'était pas meilleur que lui. C'est ce que nous disent les incroyants. Ils nous disent, vous n'êtes pas meilleur que nous. C'est vrai, mais nous, on se soigne. Recevez l'Esprit Saint, dit Jésus. Nous avons reçu la foi. Et l'Esprit Saint, c'est ce qui nous permet effectivement de continuer à vivre, à avancer. La foi, elle se reçoit comme l'Esprit Saint. Elle se reçoit, nous l'avons reçue par notre baptême. Elle se reçoit et elle se vit comme nous le vivons ce matin, ensemble, dans la pratique des sacrements, en sachant effectivement ce que Dieu attend de nous et en entrant toujours plus avant dans la prière.